Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Bonjour à tous les amoureux de Leni Bernstein. Aujourd'hui, le thème de notre émission pourrait s'intituler « Amitié et controverse » ou pour reprendre une des expressions de Leni, « Who is the boss ?» Flamboyant, sauvage, Leni dirigeait comme s'il plongeait dans un autre monde et nous y emmenait. Il me semble qu'il apporte beaucoup plus qu'une interprétation. L'envoûtement tient au fait qu'il veut faire passer l'idée de l'œuvre. Il pense littéralement la musique. Et si c'est un cliché que de dire qu'il l'a réécrit sur scène, c'est tout de même vrai. D'où sa force de persuasion physique, que certains appelaient non pas gestique, mais gesticulation. Combien d'idées reçues ont circulé sur lui? Et si nous essayons d'y voir un peu plus clair?
Comment vous décrire la magie du moment où l'on commence un morceau de musique dans un concert? Il n'y a qu'une fraction de seconde, une seule, où l'on sent que c'est le bon moment pour commencer. On attend que l'orchestre se prépare et rassemble ses forces, tandis que le chef concentre toute sa volonté et sa force sur l'œuvre. Le public fait silence, la dernière toux s'éteint, plus le moindre froissement de page d'un programme, les instruments sont prêts et...
Bang!
Si Leni était vénéré, il a bien évidemment eu aussi quelques détracteurs. Combien de fois ai-je entendu dire que ses concerts étaient fabuleux à écouter, mais qu'il fallait fermer les yeux parce qu'il n'était pas regardable tant il s'agitait. Bien pire, j'ai entendu des commentateurs de radio l'accuser d'être laxiste avec la partition, voire même que l'orchestre de Vienne lui aurait appris la rigueur. Je ne suis pas experte pourtant. Il a légué ses partitions au New York Philharmonic et l'orchestre en a posté des facsimilés. C'est peu dire qu'elles sont annotées. Chaque détail est signifié. Et pour cause, lire une partition le mettait dans un état bien particulier.
Il s'agit de la capacité d'un chef à entendre ce qu'il lit et à imaginer les intentions du compositeur. C'est le plus important. Et je pense que c'est le principal ingrédient d'une direction réussie et d'un bon chef. Un chef qui est capable de se mettre dans la peau du compositeur en train d'écrire la partition et de la restituer. J'ai peut-être un petit avantage dans la mesure où je suis moi-même un compositeur, ce qui fait que je peux me substituer plus facilement à Robert Schumann ou à Tchaïkovski. Je ne veux pas avoir l'air pompeux ou de me vanter à ce propos, mais il y a quelque chose de vrai dans tout ça.
Et puis j'ai assez envie de croire l'un de ses fameux assistants, Seiji Ozawa.
You know, Lenny looks very American.
Vous savez, Lenny, c'était vraiment l'Américain. Pour moi, il s'agit d'une gestique américaine.
American star.
Il était
movie
comme
star.
Une vedette de cinéma.
Same thing. Same, when is a party,
il allait à des fêtes où tout le monde se salue de grand high.
Inside Lenny, I know.
Mais le Lenny inside intérieur, very, je le sais, detailed. Était précis.
Double croche,
croche, tout cela
and
était limpide.
Like, oh, you know,
il avait l'air tout fou,
he heard very
mais
well,
il écoutait vraiment.
And, inside this partitura is very
en lui-même, I face à la partition, orthodox. Il était tout à fait orthodoxe,
old-fashioned.
À l'ancienne.
In music, this is very important, very precise.
Il n'avait pas l'air concentré, il avait l'air d'un rêveur.
He looks like
beaucoup de jeunes chefs ont essayé de le copier, mais ça ne marchait pas.
Try to copy.
Il n'y avait que lui pour faire ça.
This only he can do.
Lorsque j'ai rencontré Seiji Ozawa, je lui ai fait écouter sur un simple ordinateur la 4e symphonie de Brahms par Lenny. Ceci pour vous expliquer un son qui n'est pas bien joli.
You know, interesting. Breathing.
Vous voyez, la respiration de Lenny est évidente.
This music, you can feel his breathing with orchestra.
Lenny respire avec l'orchestre.
Very interesting. And I always tell.
Je le dis toujours à mes étudiants.
This is important, but more important with.
C'est le plus important. Respirer la musique.
With music, of course.
Une photo montre Lenny et Pierre Boulez qui prendra la direction du New York Philharmonic 2 ans après le départ de Lenny. Ils sont ensemble, ils larrent comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Le journaliste Jonathan Cott, lorsqu'il interviewe Lenny, évoque Pierre Boulez. Cott dit « Il dirige Mahler d'une manière pour le moins différente, sinon antithétique de la vôtre, et dans son essai « Mahler, notre contemporain », il affirme à propos des interprétations récentes de Mahler que « la liberté la plus exigeante requiert précisément la discipline la plus sévère », d'autant plus qu'à se livrer inconsidérablement à la frénésie, voire à l'hystérie du moment, la motivation primordiale se trouve saccagée. On détruit l'ambiguïté essentielle de cette musique, ce faisant, on la rend éminemment triviale et on la vide de son contenu profond. On détruit en outre sa structure sous-jacente qui équilibre tous les moments du développement pour en faire la promenade chaotique d'un touche-à-tout déboussolé. Qu'entend-il par promenade d'un touche-à-tout déboussolé ? Léni répond, ça ne vaut pas la peine d'être relevé, Boulez intellectualise. Et je pense que c'est une attaque directe contre moi. Vous ne l'avez jamais entendu diriger du Schumann ? Et Léni se met à chanter comme un gros lourdeau. Je veux dire, oubliez ça. Il n'éprouve aucun amour pour cette musique. Dans un numéro d'Omnibus, Léni règle lui-même ses comptes avec ses détracteurs.
N'est-ce pas excitant, Maestro Z ?
Excitant ? C'est sacrilège. Dès que vous allongez les silences, vous adoptez un tempo plus lent pour les deux premières mesures. C'est une règle arithmétique. Puis, vous adoptez un tempo plus rapide dans les six mesures suivantes.
Et alors ? Est-ce si terrible ?
Mon cher collègue, Beethoven n'a donné qu'une seule indication de mesure pour tout le mouvement, Allegro. En seulement 8 mesures, vous avez déjà adopté 2 tempi différents. Vous avez donc désobéi aux instructions du maître. Voilà en quoi c'est terrible.
Je n'ai pas désobéi. Je n'ai fait que prendre quelques libertés, sans doute si on devait les mesurer infinitésimales. J'ai satisfait mon instinct en matière de tension et de détente, de resserrement ou d'élargissement du tempo.
Thank you. Je viens d'arriver de Vienne et Salzbourg, où j'ai fait 5 fois en 5 jours la 8e de Mahler. Si vous connaissez cette symphonie, vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'était avec 3 jours de filming dans une chaleur incroyable. Et je suis crevé.
Bon, j'ai beau être idolâtre, je veux bien concéder que tous les concerts de Lenny n'étaient pas de qualité égale. Craig, son assistant personnel, explique pourquoi.
Il aimait les fêtes, les gens autour de lui. Je pense que quelquefois, ça s'est mis en travers de son travail. Il veillait trop tard et le lendemain, il y avait une répétition. Et je dirais que probablement, il n'était pas dedans, pas aussi performant qu'il aurait pu être. Bien sûr, tout ça se réglait pendant le concert. Cependant, je pense que quelquefois, son addiction à la fête était une entrave à son travail. Il n'y avait aucun moyen de l'arrêter parce qu'il aimait les gens. Bon, je travaillais pour cet homme, mais je n'étais pas son babysitter.
Jonathan Gott raconte cela très bien. Il vient d'écouter un concert de Beethoven avec le Philharmonique de Vienne à Carnegie Hall en 1979. À la suite de quoi, avec son amoureuse, il se rend dans une discothèque. Et c'est sur « Love to Love You Baby » de Donna Summer qu'ils se mettent à danser et brusquement, ils sont heurtés par un autre danseur. Comme nous nous tournions, nous avons été accueillis par un grand mouvement de bras, un salut de la main et le sourire étincelant d'eux. Je jure que c'est vrai, le maestro Dionysos lui-même. Il était là dansant, torse nu sous un blouson de cuir noir, une cigarette aux lèvres, avec sa suite de joyeux fêtards tourbillonnant en cercle autour de lui, puis autour de ma compagne et moi-même. Nuit blanche et voyages incessants. À partir de 1966, Lenny a travaillé régulièrement avec des orchestres européens, de la radio bavaroise, le LSO à Londres et plus que tout avec le Philharmonique de Vienne, dont nous parlerons longuement, mais plus tard. Certaines collaborations, il faut le dire, ne se passent pas si bien que cela. En 82, il doit diriger le BBC Symphony Orchestra dans une œuvre que chaque Anglais connaît par cœur. Il s'agit de la variation sur un thème original opus 36, Enigma d'Elgar. Lenny n'aimait pas l'orchestre, et l'orchestre le lui rendait bien. Il a complètement déconstruit la pièce en ralentissant le tempo jusqu'à la détruire totalement. On entend dans la répétition une sorte de férocité chez Lenny. Je vais vous pousser à bout. On va voir jusqu'où on peut aller. Et c'est moi qui décide, pas vous. Une formidable engueulade musicale, pince sans rire.
Ok, voilà ce qui vous a tous fait souffrir. Et maintenant, je vais vous donner l'autre vérité. Je suis sérieux. Vous vous demandez si je suis vraiment sérieux ?
Je pense que vous l'êtes.
Oh oui, je suis sérieux. Écoutez.
C'est impossible ce que vous demandez.
Non, c'est pas impossible. Allez, revenons à la mesure 50.
1, 2, 3, 4.
Ok. C'est le paradis. Bon, maintenant, voyons avec le tuba. Vous pouvez faire mieux. On y va. Vous parlez fort, mais ça ne tient pas. Laissez-moi écouter d'autres musiciens à la mesure 51. Les violons, par exemple. Et ne lésinez pas sur l'huile de coude. Asseyez-vous, c'est vous le capitaine. Respirez profondément et menez vos troupes. C'est fabuleux.
Vraiment.
C'est exactement ce que ce foutu passage doit être.
Durant les années 1970-1980, il est invité régulièrement par l'Orchestre National de France avec lequel il enregistre plusieurs disques de musique française. Et là, la critique est enthousiaste. Bertrand Boissard écrit en 76. 56 ans après la création du Bœuf sur le toit, la fièvre, la joie la plus canaille, s'empare à nouveau du théâtre des Champs-Élysées sous l'emprise d'un trublion génial nommé Leonard Bernstein. Il mime tout, de la naïveté à la mélancolie, du pathétique à la fougue sans retenue. Il va jusqu'à danser sur le podium de manière chaloupée ou se déhanchant franchement pour finir par sauter sur place. Il y a un contraste amusant entre le spectacle donné par l'extraverti chef d'orchestre et le sérieux absolu des instrumentistes. Sans parler d'un public que l'on devine assez rigide, qui laisse finalement éclater son enthousiasme, emporté par la lame de fond Bernstein et sa chaleur communicative.
Thank you.
Summer with Lenny, Emmanuel Franc, France Musique.
Jamais personne ne dit à quel point Lenny était perfectionniste. Heureusement que Craig Urquhart peut en témoigner. Mais sa quête avait toujours le même sens, offrir une nouvelle fraîcheur à une œuvre.
I'll never forget the morning when he was conducting he had a rehearsal with the Vienna Philharmonic.
Je n'oublierai jamais un matin où il dirigeait l'orchestre philharmonique de Vienne. Il était au Bristol et mon travail était d'aller le réveiller. Je suis allé dans sa suite. Il était resté éveillé toute la nuit, il y avait une pile de cigarettes là, des pots de café là, et au milieu la partition de la septième en face de lui. Et il m'a dit, je ne peux pas faire cette répétition, tout cela est trop nouveau pour moi. Et je lui ai dit, mais combien de fois tu as dirigé cette symphonie de Beethoven ?
Lenny a le don de cultiver des amitiés électives et musicales. Impossible de toutes les citer, il me faut faire un choix qui paraîtra peut-être injuste, mais sur une si longue carrière, Lenny a joué avec presque tous les plus grands solistes. Isaac Stern est né en Ukraine, comme les parents de Lenny. Ils se connaissent dès 1947, et Stern se rappellera toujours du succès qu'ils ont obtenu ensemble si jeunes. Stern dit de Lenny, il est un des plus grands esprits que j'ai jamais côtoyé. Intelligent, curieux, engagé, presque effrayant tant il était brillant. Il absorbait des idées venant de tous côtés comme une éponge. Et ils en ont passé des nuits à parler et des jours à enregistrer et à répéter et à donner des concerts. Autre très grande amie, Christa Ludwig.
Bernstein et moi, on a fait un récital à New York, dans le Carnegie Hall, et il voulait seulement des Brahms. Et j'étais dans son appartement à New York, et les trois enfants étaient petits, et j'ai jamais vu ça. Alors quand il est venu dans le appartement, les trois enfants étaient chez lui comme des singes, comme ça, baisés et tout ça. C'était très gentil, très gentil. Et on a travaillé là. Et ils ne connaissaient pas du tout des mélodies de Brahms. Et ils pensaient qu'il est venu de symphonie de Brahms. C'était différent, mais c'était formidable parce que c'était un nouveau clic qu'il peut faire. Il a fait un orchestre dans le piano, non?
Wisst ihr, mein Kindchen, am allerschönsten ist, wenn ihr süßes Mündchen scherzt und lacht und küsst. Kindlein, du bist mein, ewiglich küss ich dich, dich schon.
Christian Zimmermann et Leni ont collaboré ensemble pendant 13 ans.
Huit mesures pour toi. Et après le pont, tu me diras si ça va.
Lequel ?
Ce qui vient là, tu me diras ce que t'en penses ?
Je sais que je vais aimer ça. La manière dont tu as commencé ?
Je ne suis pas sûr.
Mais tu as beaucoup ralenti, c'est trop lent jusque-là. Et pas déjà là. Laisse parler ta vision. Il faut qu'on parte un peu avant.
Zimmermann a raconté comment Leni dirigeait en fonction des émotions qu'il avait vécues dans la journée. Ils étaient en concert quand Kennedy est mort. Ce soir-là, Leni a joué son chagrin, ayant prévenu Zimmermann. Ils ont été en parfait dialogue. Zimmermann nous en dit long sur le musicien. Leni était toujours totalement honnête. Donc le moindre événement qui avait changé sa construction émotionnelle trouvait immédiatement son chemin dans ses interprétations. En tournée, ils ont joué 7 fois le concerto numéro 2 de Brahms, 7 fois totalement différentes. Christian Zimmermann ajoute « C'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté avec aucun autre chef, ce degré de courage et d'audace, effrayant peut-être, adrénaline maximum. » Mais Christian Zimmermann était aussi un grand interprète de la deuxième symphonie de Leni, L'âge de l'anxiété. Il avait promis à son ami de jouer son œuvre pour fêter ses 100 ans. Christian Zimmermann et Simon Rattle ont tenu promesse le 21 mai dernier. Il y eut tout un pataquès autour du concert du 6 avril 1962 à Carnegie Hall. Glenn Gould y interprétait avec Leni le premier concerto pour piano de Brahms. Une légende a longtemps couru. Le chef, Leonard Bernstein, n'aurait aucun respect pour le soliste Glenn Gould. allons voir cette histoire de près et racontons-la par le menu pour mieux s'en délecter grâce aux confidences de Lenny à Jonathan Gott. Ce qui s'est passé, c'est qu'une ou deux semaines auparavant, Glenn m'avait appelé de Toronto pour me dire « Hola Lenny, j'ai une surprise pour toi ». J'ai répondu « Glenn, quoi que tu fasses, tu ne peux plus me surprendre ». Et il a dit « Cette fois-ci, tu vas être estomaqué. J'ai la réponse au ré mineur de Brahms. Quand est-ce que je peux te voir ?» Donc, Glenn a débarqué à la maison. Nous habitions alors face à Carnegie Hall. C'était la première fois qu'il rencontrait Félicia. Il portait une toque en fourrure, un manteau, deux paires de gants et je ne sais combien d'écharpes. Donc il enlève le manteau, les gants et les écharpes et Félicia très poliment lui demande « Vous ne voulez pas enlever votre toque ?» Et il répond « Non, non, je la garde. » Eh bien, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Félicia a disparu avec lui. Elle était arrivée, je ne sais comment, à lui faire enlever la toque et l'avait emmenée à la salle de bain pour lui laver les cheveux. Il n'y a que Félicia pour faire ça. Glenn Gould revient au salon. Ils se mettent chacun à leur piano et Gould se met à jouer la première entrée du piano, mais à un tempo infiniment lent. Lenny, en face de lui, montre comment il va devoir alors diriger l'orchestre, comme si c'était un bourdonnement interminable. Et Lenny précise « Il va falloir 40 minutes, rien que pour achever ce seul premier mouvement. » Et Glenn, avec une voix de nain, de perlimpinpin démoniaque, « Mais c'est exactement ce que je veux. » Et Lenny de rétorquer « Mais on ne peut pas jouer ça, les corps n'ont pas assez de souffle pour exécuter ne serait-ce qu'une phrase à ce tempo. » Réponse de Gould « Attends, tu verras, tu verras. » Le lendemain, en l'absence de Gould, à la répétition, Lenny demande aux musiciens d'essayer le tempo de Gould et comme il râle, il les supplie d'être patient et respectueux du grand pianiste. le lendemain, Gould arrive à la répétition. Ça commence mal. Gould a des soucis avec son tabouret, ses mitaines et sa bouteille d'eau. Et il retarde tout le monde. Et Lenny de conclure à la fin de la répétition, c'était tout simplement insupportable. C'était au-delà du croyable. Ce que personne ne sait, c'est qu'il y a eu deux concerts. D'abord, la répétition en public, le 5 au soir, diffusée à la radio. Glenn Gould et Lenny ont préparé ensemble une introduction pour expliquer leur révolution brahmsienne. Et voilà Lenny qui a griffonné quelques mots sur une enveloppe face au public.
N'ayez pas peur, Monsieur Gould est ici. Il va apparaître dans un instant. Je ne suis pas, comme vous le savez, enclin à parler avant un concert, excepté lors des répétitions publiques du mercredi. Mais il y a une raison à cette curieuse situation. Celle-ci mérite quelques mots. Vous allez entendre une interprétation que je qualifierais de plutôt pas très orthodoxe, du démoniaque concerto numéro 1 de Brahms. Une interprétation radicalement différente de toutes celles que j'ai jamais entendues. Même dans mes rêves, je n'aurais pas imaginé ça, avec des tempi si alanguis et ces fréquents écarts avec la dynamique indiquée par Brahms. Je ne peux pas dire que je sois totalement d'accord avec la conception de M. Gould. Et cela soulève une question intéressante. Qu'est-ce que je fais là à le diriger ? Je le dirige parce que M. Gould est un artiste si crédible et si sérieux que je dois vraiment considérer tout ce qu'il avance avec bonne foi. Et sa conception est suffisamment intéressante pour que je sente que vous devriez l'entendre aussi. Mais la question cruciale est, dans un concerto, qui est le boss, le soliste ou le chef ? La réponse, évidemment, est tantôt l'un, tantôt l'autre. Ça dépend des gens impliqués. Mais la plupart du temps, les deux se débrouillent pour fonctionner ensemble, que ce soit par la persuasion, le charme ou les menaces, pour aboutir à l'interprétation où l'on ne fera qu'un. Il n'y a qu'une seule fois dans ma vie où j'ai dû me soumettre au concept d'un soliste totalement neuf et incompatible avec moi. Et c'était M. Gould, la dernière fois que je l'accompagnais.
conscient que sa version de la veille, d'une heure et 42 minutes, n'était pas satisfaisante, s'est révisé et a joué sur un tempo bien plus orthodoxe. Et les journalistes présents n'ont pas compris les commentaires de Lenny et lui sont tous tombés dessus. Lenny a en fait travaillé comme un fou toute sa vie. Et ses concerts, même les plus ratés, étaient toujours vivants. Les plus réussis restent à tout jamais mémorables. Il a toujours été à la fois au plus près de la partition et de lui-même. N'est-ce pas exactement ce que l'on demande à un musicien ? Il y avait un autre chef tout aussi célèbre que Leonard Bernstein, Herbert von Karajan. Ils ont vécu une sorte de duel ou de duo. Vous choisirez le bon mot demain. C'était Summer with Lenny. Et c'est Eric Lancien qui a réalisé cette émission, Françoise Monteil qui m'a aidé à la préparer, Bernard Loupias a assuré la traduction, Laurent Lederer a prêté sa voix à Lenny et Marie Le Peintre était à la technique. À demain.